À tourner avec moi dans le livre de Josué, dans l'Ancien Testament, à la toute fin du livre, toute fin, dernier chapitre du livre de Josué. Tournez avec moi, s'il vous plaît. On va commencer le mois de janvier avec quelques prédications pour se donner le ton pour l'année. D'accord? C'est mon objectif avec le mois de janvier. Et pas dans le sens des bonnes résolutions, mais peut-être. Peut-être qu'on peut le prendre comme ça aussi. Dans le sens de prendre certaines décisions en début d'année qui vont donner une direction à l'ensemble de notre année. Et pendant que j'étais en train de réfléchir à l'année 2012 pour la famille Étier, pour Esther, pour moi, pour les enfants, spécialement pour moi aussi, pour mon cœur, ce que je désire le plus en 2012, vous allez dire c'est évident, mais honnêtement, c'est ça que je désire. Je désire m'approcher de Dieu. C'est ça que je désire pour mon cœur personnellement en 2012, c'est m'approcher de Dieu davantage. Et qu'en m'approchant de lui, il vienne me transformer dans mon caractère, dans ce que je suis comme personne, dans ce que les gens autour de moi reçoivent de Yannick comme personne. Je désire grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. Qu'à la fin de l'année 2012, Esther, les enfants, mes collègues ici à l'Église, les frères et sœurs dans l'Église, ma famille qui ne connaît pas le Seigneur, puisse dire il y a quelque chose qui a changé, il y a une douceur, une grâce qui sort de toi de plus, qui n'était pas là au début de l'année. Et moi, je saurai dans mon cœur, au fond de mon âme, que je ressemble un peu plus à Jésus-Christ. Ça, c'est ce que je désire pour moi-même cette année. Et c'est ce que je vous souhaite. Je ne peux pas vous souhaiter quelque chose de plus grand que ça. Certains d'entre vous, vous cherchez un emploi, vous cherchez du travail. Certains d'entre vous, vous luttez avec des problèmes de santé qui perdurent, des situations difficiles au niveau familial, dans les relations de couple. Vous désespérez de trouver enfin un conjoint pour la vie. Je pourrais vous souhaiter tout ça. Mais au-dessus de ça, bien au-delà de ça, ce que je peux vous souhaiter de meilleur en 2012, c'est de vous approcher de l'Éternel. Et qu'en vous approchant de lui, il vienne transformer votre cœur, votre être, votre caractère, pour qu'à la fin de l'année, vous ressembliez un peu plus à Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas chrétien, certains d'entre vous, vous n'êtes pas chrétien, vous venez ici, vous dans l'église, vous suivez la vague, il faut à l'église, on va aller à l'église. Vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous n'êtes pas un disciple de Jésus-Christ, inconditionnel, attaché à Jésus-Christ. C'est ça que je vous souhaite en 2012. Vous approchez de Dieu, et s'approcher de Dieu lorsqu'on ne le connaît pas, ça commence par Christ. Jésus-Christ est l'empreinte même de la personne de Dieu. Vous le trouverez nulle part ailleurs, dans aucune philosophie, dans aucune religion, dans aucun système. Vous ne trouverez le Fils de Dieu. Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Le reflet de la gloire de la personne de Dieu, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Alors, si vous n'êtes pas chrétien ce matin, de tout mon cœur, ce que je vous souhaite, c'est qu'en 2012, vous approchiez de Dieu et que vous deveniez un disciple de Jésus-Christ personnellement. Il n'y a pas de plus belle grâce que je peux vous souhaiter, quels que soient les défis qui sont devant vous actuellement. On va aller ensemble dans la prière. Père éternel, je suis disponible devant toi pour te servir, Seigneur, pour porter ta parole. Seigneur, tu fais une œuvre dans mon cœur, dans mon âme, Seigneur, Tu me montres toute ma fragilité, combien j'ai besoin de toi et combien j'ai de chemin à parcourir pour ressembler à Christ davantage, Seigneur. Mais tu nourris mon âme par ta parole, Seigneur. Tu me donnes une vision rafraîchie, Seigneur, pour les pas, les jours qui sont devant moi, pour que je grandisse à l'image de Christ. Et je te bénis, Seigneur, pour ce passage des Écritures qui a su toucher mon cœur, qui a su me remettre en question, me préparer pour cette nouvelle année. Père, Père, je te prie de venir te manifester par ton Esprit Saint ce matin. Seigneur, viens te manifester en appliquant ta parole à chacun des cœurs qu'il y a dans cette salle, Seigneur. C'est ma prière, Père. Viens faire l'œuvre qu'aucun homme ne peut faire, que je ne peux pas faire, mais qu'aucun homme ne peut faire, Seigneur. Appliquer tes saintes écritures avec une illumination, une lumière que seul ton Esprit Saint peut donner, afin que cette parole soit vie ce matin dans chacun de nos cœurs. Je te le demande dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je m'en remets à toi entièrement, Père. Amen. Amen. Alors, où on commence? Où on commence l'année? Si on veut poursuivre cette proximité avec Dieu en 2012, se rapprocher de Dieu afin de grandir à l'image de Christ, bien, on va commencer dans l'Ancien Testament, comme je l'ai mentionné. On va commencer dans le livre de Josué à la toute fin du livre. Maintenant, simplement pour vous mettre en contexte, c'est pas tout le monde qui est bien familier avec l'Ancien Testament, peut-être aussi que c'est pas frais à votre mémoire. Où est-ce qu'on est rendu dans l'histoire d'Israël lorsqu'on arrive à la fin du livre de Josué? Mais on arrive à un moment charnière dans l'histoire d'Israël, d'accord? Israël, le peuple d'Israël était un peuple qui était esclave en Égypte. Donc ça, c'est beaucoup plus tôt dans l'histoire, mais ils étaient esclaves en Égypte. Ils étaient là pour faire les basses besognes des Égyptiens. Et puis Dieu a suscité un serviteur. Dieu a suscité un homme, Moïse, accompagné de son frère Aaron. Et il a utilisé Moïse pour conduire, pour faire sortir le peuple d'Israël de cet esclavage. Maintenant, ce n'est pas Moïse qui allait conduire le peuple d'Israël là où Dieu voulait les conduire, parce que Dieu leur avait donné une promesse. Non seulement je vais vous faire sortir de cet esclavage, mais à la sortie, ils se sont retrouvés dans le désert. L'objectif de Dieu, ce n'était pas de les laisser là, c'était de les conduire vers une terre où ils pourraient s'établir comme peuple, devenir une nation qui allait vivre selon les principes de la parole de Dieu, selon la loi de Dieu, une nation qui allait être une lumière pour les nations environnantes. Si nous, aujourd'hui, comme chrétiens, nous allons vers l'extérieur pour apporter le message de l'Évangile, à cette époque-là, Israël devait vivre dans ses relations à l'intérieur du pays, par son style de vie, devait vivre des valeurs qui allaient être un témoignage puissant pour les nations environnantes, afin qu'elles disent « Ce peuple-là est béni de l'Éternel parce que parce qu'ils sont serviteurs de l'Éternel, du Dieu très haut. » Lorsque Moïse conduit le peuple d'Israël à l'extérieur du pays d'Égypte, ils sont libérés de l'esclavage, il faut faire tout le chemin pour se rendre et entrer dans la terre promise. Il va faire une partie de la route avec eux, mais en cours de route, Moïse va passer le bâton à quelqu'un d'autre, Josué. Josué, qui au départ était seulement son serviteur, a été un homme de confiance, a fait partie des espions qui sont allés regarder la terre à conquérir tout ça, parce qu'il y avait une conquête militaire à faire pour rentrer, une conquête accompagnée par Dieu, mais une conquête à faire. Et Moïse est celui qui va conduire le peuple à l'intérieur de la terre promise. Lorsqu'on arrive au chapitre 24, on arrive à un moment charnière parce que Josué a accompli sa mission. On arrive à la fin de la mission de Josué. Ils sont entrés dans la terre promise. Il reste des conquêtes à faire. Ils doivent aller s'établir. Mais il y a quelque chose de radical qui va changer dans le fonctionnement du peuple. D'accord? Depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, le peuple d'Israël marchait comme un seul homme, avançait, vivait ensemble 24 heures sur 24. Le clan était ensemble. C'est comme si vous ne partiez pas d'ici ce matin. On prend tout le mail, on s'installe ici, toutes les familles, on campe autour, on est ensemble tout le temps, 24 heures sur 24. Je sais que vous ne voulez pas ça, mais imaginez ça un instant. Depuis des années, le peuple d'Israël vit toujours ensemble. Les chefs du peuple, Moïse puis Josué, les chefs qui les accompagnent, sont avec eux, ils sont là. Ils les guident quotidiennement à marcher avec l'Éternel. Maintenant, ils sont entrés dans la terre promise. Ils sont entrés dans la terre promise et chaque tribu doit aller s'installer dans sa région. Chaque famille doit aller installer sa maisonnée, aller cultiver sa terre. Et donc, ils arrivent à un moment où Josué va dire, regardez les boys, là, il va falloir que vous preniez en main. Là, il faut que vous preniez en main. Ça va être pas chacun pour soi, mais chacun sur son petit lopin de terre en train de s'installer puis d'établir sa famille. Josué sait qu'il ne sera pas là pour conduire l'ensemble du peuple à proximité, jour après jour, après jour, après jour. Mais Josué doit remettre le peuple entre les mains de Dieu et il doit remettre chaque maison entre les mains du chef de famille. Il doit remettre chaque foyer entre les mains du chef de famille et dire, il va falloir que vous preniez en main les boys. Et donc, on arrive à ce moment charnière où Josué a accompli sa mission avec brio. Il était fidèle. Mais lui-même va aller s'installer sur un mont, va aller s'installer là avec sa famille, tout ça. Et il doit laisser chacun partir de son côté. C'est un moment charnière parce que chacun va aller s'occuper de sa famille. Et pendant que j'étais en train d'étudier le texte, je pensais à l'Église. Où chaque semaine, on vit les semaines séparées les uns des autres. On établit nos foyers, on établit nos maisons, on établit nos carrières, on établit notre vie de couple, on est en train de s'installer. On est en train de servir. On se voit souvent dans la semaine. Il y a peu de gens, à part les chrétiens, qui se côtoient autant que ça. On va se voir dans des petits groupes. On va se voir en train de servir dans un ministère, une autre affaire. Mais vous voyez, on a notre vie chacun de notre côté. Métro, boulot, dodo, c'est reparti. C'est fini les vacances, les fêtes. Chacun est en train de construire ses affaires. Et puis, un certain nombre d'heures par semaine, on est en train de bâtir ensemble. Mais j'avais cette image qui me venait à l'esprit. Chacun, on est en train de bâtir chacun de notre côté. Josué fait une dernière adresse au moment de cette séparation. Il dit, OK, les boys, il faut que je vous parle, parce que là, il faut que vous preniez en main. Et là, ce que Josué va faire, c'est qu'il va leur rappeler les bontés de Dieu. Je ne vais pas lire tout le passage, ça commence plus tôt que ce qu'on va lire ce matin. Ce matin, je vais vous lire des versets 14 à 25. Mais Josué revoit avec eux comment Dieu a été fidèle, combien il les a libérés, combien il les a préservés, combien il les a conduits à travers le désert, combien il leur a donné des victoires extraordinaires, combien Dieu a été patient avec eux envers leur rébellion, leur infidélité, tous les moments où eux doutent. Et lui demeure fidèle, demeure patient. Il leur rappelle la loi que Dieu leur a donnée. Dieu leur a donné sa parole avec des principes. Ils peuvent savoir comment marcher selon Dieu. Ils ont la parole, ils ont la loi de Dieu. Ils savent comment marcher. Ils connaissent la volonté de Dieu. Josué leur rappelle toutes ces choses. Et puis, il arrive avec un défi. Je vais vous lire les versets 14 à 25. Josué 24, 14 à 25. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ses grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. » Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. » Car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Chacun se prépare à aller établir sa famille. En somme, ce que Josué fait, c'est qu'il lance un défi et il dit, vous avez une décision à prendre aujourd'hui. Vous avez un choix à faire. J'ai été là pour vous guider. Des chefs ont été là pour vous guider pendant toutes ces années. Aujourd'hui, vous avez une décision à prendre. Vous avez un choix à faire. Décidez si vous allez suivre l'Éternel, si vous allez honorer Dieu, si vous allez servir Dieu. Et puis, il lance un appel pratique, très concret. Il dit, si c'est ça votre choix, si c'est ça votre décision, faites le ménage. Faites disparaître, renoncez concrètement aux idoles, aux dieux égyptiens, aux dieux des Amoréens. Prenez une décision. Puis Josué dit, parce que nous, on a fait un choix. Ma maison et moi, on a fait le choix, on va servir l'Éternel. Que vous serviez l'Éternel ou non, nous, on a fait un choix, nous allons servir l'Éternel. En fait, un choix. Michel a bien introduit tout à l'heure la prédication. C'est pas moi. Est-ce que vous avez pris le temps pendant les fêtes de vous arrêter et de réfléchir à qui vous allez servir en 2012? Quel Dieu est-ce que vous allez servir en 2012? Qui va être votre Dieu dans tous les aspects de votre vie en 2012? Josué fait quelque chose d'assez bizarre. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'ironie dans les Écritures, vous n'avez jamais lu les Écritures. Lisez la Bible. Regardez le verset 15. C'est terrible ce qu'il fait, c'est presque un blasphème. Il fallait que Dieu sache ce que Josué est en train de faire pour que Dieu ne le frappe pas comme il avait frappé Uzza. D'accord? Il fallait qu'il sache ce qu'il est en train de faire. Il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Choisissez-vous des dieux. L'être humain sert toujours un dieu. Nous sommes des adorateurs par nature. Chrétiens, non-chrétiens, croyants, athées, nous sommes des adorateurs par nature. Certains adorent l'être humain et pensent que la connaissance et l'intelligence humaine est au-dessus de toute chose, peut expliquer toute chose. C'est ce qu'on appelle un athée. D'accord? Mais l'être humain, par nature, est un adorateur. Nous adorons. Mais Josué, comme chef du peuple, comme serviteur de l'Éternel, est en train de leur dire, choisissez qui vous allez servir. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, bien choisissez quel dieu vous allez servir. Les dieux des Égyptiens ou les dieux des Amoréens? Et le peuple a la réaction que certains d'entre vous avaient eue tout à l'heure, simplement dans votre pensée, quand j'ai posé la question. Je veux dire, certains d'entre vous, vous aviez le goût de me dire, regarde Yannick, c'est parce que je suis dans une église ce matin. Si tu te demandes qui je vais servir, regarde où est-ce que je suis assis. Si j'avais d'autres dieux à servir, je serais couché dans mon lit ce matin. Je serais pas dans une église. Mais je suis à l'église, Yannick. Pourquoi tu me demandes qui je vais servir en 2012? C'est la réaction du peuple ici. Regardez la suite au verset 16. Le peuple dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Le peuple est en train de regarder Josué et dire, attends un petit peu Josué, je ne comprends pas là. Nous sommes le peuple d'Israël. C'est quoi cette question-là? Quel Dieu tu penses qu'on va aller servir? Des fois, on a l'impression, Josué, que tu nous prends pour des idolâtres. Maintenant, si vous connaissez l'histoire d'Israël un petit peu, vous savez qu'Israël est un peuple aux coups raides et son histoire spirituelle, son histoire de consécration, son histoire d'amour avec Dieu, c'est comme ça. Puis c'est plus comme ça pratiquement que comme ça, d'accord? Déjà depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, leur histoire ressemble à ça. Ce sont des montagnes russes, up and down, plus ou moins consacrées, moins consacrées. Pourtant, je crois, moi je crois qu'à ce moment-là, au moment où ils ont donné la réponse, la majorité des gens étaient très sincères. Je pense que les gens, devant le zèle de Josué, devant l'affirmation de Josué à vouloir marcher avec l'Éternel, je crois que spontanément, sur le moment, les gens étaient sincères et ils disaient, « Ben voyons donc, Josué. Come on, man. C'est sûr qu'on veut servir l'Éternel. C'est lui qui nous a amenés ici. » Maintenant, si on est attentif au texte, tout porte à croire qu'ils avaient gardé quelques pratiques acquises en Égypte. Pendant toutes ces années où Israël était en Égypte, ils ont intégré dans leur foi, dans leur religion, dans leur spiritualité, des cultes à des dieux égyptiens. Ça, c'est très clair. Josué dit ici, « Si vous choisissez de servir l'Éternel, faites disparaître les dieux des Égyptiens. » Il semblerait qu'un certain nombre d'entre eux avaient gardé dans un fond de tiroir quelques amulettes, quelques idoles égyptiennes qui étaient là à portée de main, juste au cas où. Tu sais, des journées où ça va mal, tu pries Dieu puis il pleut, ben peut-être que tu peux sortir une amulette quelconque ou je sais pas, tu essaies de demander au Seigneur de guérir ton enfant puis il le fait pas, il y avait pas un dieu quelconque là-dedans là. Je pense que j'ai ça au fond de mon tiroir, je te reviens tantôt puis ça va, et puis ils sortent. Il semble qu'ils avaient gardé quelques-unes de ces idoles, de ces dieux et qu'ils leur vouaient encore un culte. Des fois, tu sais que Dieu ne serait pas au rendez-vous. Ça peut être pratique d'en garder un dans ta poche d'en arrière. Si Dieu n'est pas toujours ton secours, tu gardes une petite idole dans la poche d'en arrière, tu la sors, tu vas trouver ton secours dans cette idole-là. Mais non seulement ils en avaient probablement gardé quelques-unes, mais ils se préparent à rentrer dans un territoire où c'est pas compliqué. À tous les coins de rue, tu t'enferges dans une idole. Ces gens-là étaient polythéistes, ils avaient toutes sortes de dieux, ils avaient toutes sortes de croyances. Et donc, ils vont entrer dans un endroit où il y a une décision à prendre avant d'aller s'installer, parce que ces gens-là ont d'autres dieux que l'Éternel. Je dois prendre une décision à l'avance, dire, moi je renonce à ces dieux-là, je ne m'adonnerai pas à ces cultes-là, je ne me tournerai pas vers ces dieux-là. Et s'il y a des moments où j'ai des luttes, j'ai des combats, j'ai des doutes, il me semble que Dieu tarde, je ne me tournerai pas vers des dieux païens. Je vais rester, je vais garder mes yeux fixés sur l'Éternel. Et donc, simplement, Josué leur dit, les boys, faites un choix, vous avez une décision à prendre. Lorsqu'il dit au verset 14, il dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. C'est ça, servir Dieu, c'est ça, craindre Dieu. Au moins en partie, c'est renoncer à tout autre Dieu, à toute autre croyance, à placer ma foi et mon espoir en tout autre Dieu que l'Éternel. Servir l'Éternel avec intégrité et fidélité, c'est prendre le temps d'examiner que je n'ai pas une idole qui traîne dans le fond de mon placard, que j'ai tendance à sortir dans mes soirées d'angoisse pour me tourner vers cette idole-là d'un coup que, tu sais, ce serait peut-être plus efficace que Dieu. Et c'est ça, servir l'Éternel, c'est avoir un cœur sans partage. Dans le décalogue, les 10 commandements, le premier commandement, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Craindre Dieu, c'est avoir assez de respect pour lui pour ne pas avoir un cœur partagé. J'ai épousé Esther il y a bientôt 20 ans, je ne la crains pas. Mais je la respecte assez pour ne pas avoir une autre femme dans mon cœur. Parce que je lui ai promis fidélité. Et c'est ça, craindre l'Éternel, servir l'Éternel. C'est une promesse de fidélité. Une promesse de fidélité à Dieu. Alors Josué leur demande de faire un choix. Il leur demande d'être conséquents avec leur choix, de chasser les idoles, de brûler tout ça, les faire disparaître de leur vie, renoncer à en adopter de nouvelles. Et puis il leur dit, prenez une décision parce que moi j'ai pris une décision pour mon foyer. Comment est-ce que ça s'applique pour nous en Occident au 21e siècle? J'ai pas beaucoup de crainte. J'ai pas beaucoup de crainte de vous croiser dans un temple bouddhiste cette semaine. Je sais pas, ça m'inquiète pas beaucoup. J'ai pas vraiment de crainte qu'en partant d'ici, en arrivant à la maison, vous alliez allumer des lampions avec pour Bouddha ou peu importe, ou vous alliez faire des prières à Allah. Ou que, vous comprenez, ça m'inquiète pas tellement ça. Comment ça s'applique pour nous aujourd'hui dans notre contexte? Dans notre contexte à nous. Si on était ailleurs, ce serait une autre affaire. Il y a des peuples qui accueillent le christianisme tout en gardant leurs anciennes pratiques. En Haïti, ceux qui viennent d'Haïti, vous savez, ceux qui vont intégrer, ils entrent dans l'Église catholique en gardant des pratiques vaudou. C'est une des difficultés qu'il y a là-bas. On trouve cette réalité-là en Asie, on trouve cette réalité-là en Afrique. Ça ne se présente pas exactement comme ça ici parce qu'on est une société christianisée, entre guillemets. Donc, je n'ai pas vraiment de crainte que vous ayez toutes des petites idoles puis vous alliez offrir des cultes. Comment est-ce que ça va s'appliquer à notre époque, dans notre situation, pour nous, aujourd'hui, en 2012? Le Nouveau Testament élargit énormément notre compréhension de ce que c'est qu'un culte à un Dieu étranger. Le Nouveau Testament élargit énormément et approfondit notre compréhension de ce que c'est une idole. D'accord? Beaucoup plus profonde. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on lit le récit du Nouveau Testament, évidemment, c'était une époque polythéiste, les gens adoraient d'autres idoles, tout ça, et celui qui devenait chrétien devait faire le choix de renoncer aux autres dieux pour se concentrer et se consacrer uniquement à l'Éternel. Mais le Nouveau Testament va plus loin que ça aussi. Il va plus loin que ça. Dans le Nouveau Testament, on découvre que tout ce qui vient prendre la place qui est réservée à Dieu dans notre cœur devient à ce moment-là une idole dans notre vie. Tout ce qui vient remplacer Dieu dans notre cœur est une idole qui est en train de s'installer dans notre vie. Même les bonnes choses de la vie pourraient éventuellement devenir des idoles. Dans Éphésiens 5, on va afficher le texte, je vais vous le lire rapidement. Je vais vous lire un petit peu plus largement le contexte. Dans Éphésiens 5, l'apôtre Paul dit à partir du verset 3 que la débauche n'y a aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. L'apôtre Paul dit que de se livrer à la débauche, d'être animé par la cupidité, c'est pratiquer de l'idolâtrie. Tout ce qui peut en venir à prendre la place qui revient à Dieu dans mon cœur devient une idole. Même les choses qui sont saines et bonnes. Si on regarde juste les exemples que Paul donne ici, lorsqu'il parle de débauche et de cupidité, je m'excuse pour les jeunes oreilles, mais on parle de sexualité puis on parle de biens matériels. Dans mon livre à moi, là, c'est Dieu qui a créé tout ça. La sexualité, c'est Dieu qui l'a créé. C'est quelque chose d'extraordinaire qui est censé être vécu dans une relation de couple entre un homme et une femme qui sont mariés et qui ça profite à l'épanouissement du couple, à l'intimité du couple, éventuellement à la procréation aussi. La sexualité, c'est quelque chose que Dieu a créé. Je veux dire, Dieu les aurait créés habillés, tu sais, s'il avait trouvé que c'était pas comme super cette affaire-là, mais il était tout nu. Fait que ça fait partie des bénédictions de Dieu. Les deux étaient là flambants. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Mais quand je désire la sexualité au point de ne pas être capable d'honorer la parole de Dieu, d'entrer dans la vision que Dieu a pour la sexualité, d'entrer dans le programme que Dieu a pour la sexualité devient une idole dans ma vie et je deviens un débauché. Et c'est vrai pour ceux qui sont mariés, c'est vrai pour ceux qui sont célibataires. Quand je veux tellement de sexualité que je suis accro à la pornographie, j'ai une idole grosse comme ça dans mon cœur, dans ma vie, qui s'appelle sexe, et c'est de la débauche. Je suis un débauché, j'ai une idole dans ma vie qui est la sexualité, qui fait que je suis pas capable de trouver mon bonheur et mon plaisir dans ma relation avec mon épouse ou tout simplement dans l'attente d'un mariage éventuel. Je suis un débauché. La même chose avec les biens matériels. Dieu a créé les biens matériels. Dieu ne nous a pas créé esprit, puis ce qui est esprit est bon, puis ce qui est matière est mauvais. Non, non, non. Dieu nous a créés entiers dans un monde matériel. Il a dit, regardez, le garde-manger est là, les animaux sont là, vous allez faire une ride, les chevaux sont là. Come on, amusez-vous la gang. Bénédiction. Mais quand les biens matériels deviennent l'objet de désirs dans ma vie qui m'amènent à prendre des choix qui ne sont pas sages, qui m'amènent à entrer dans des dépendances, qui m'amènent à, que ce soit du gambling, de l'endettement de fou, que ce soit de travailler comme un malade parce que ça me prend une dernière bébelle. Les biens matériels sont devenus une idole dans ma vie. Alors voyez-vous, même les meilleures choses que Dieu a créées, lorsqu'elles en viennent à prendre la place dans notre cœur, qui revient à Dieu. Parce que c'est Dieu qui doit siéger au centre de ma vie et au centre de mon cœur. Même les meilleures choses dans ma vie, que ce soit l'appréciation, c'est quelque chose de bien d'être apprécié. Tantôt, Stéphane est en train de donner un cours. Stéphane, t'es un super prof. C'est bon que les gens voient Steph et disent, Stéphane, man, t'enseignes bien la parole de Dieu. C'est une grâce de Dieu, cette affaire-là. Mais le jour où je dépends de l'appréciation, puis je n'ai pas d'appréciation, j'arrive pas à trouver mon bonheur en Dieu. Oups, je suis critiqué, j'arrive pas à trouver mon bonheur en Dieu. Il y a une idole qui est là. Voyez-vous, je suis censé pouvoir me tourner vers Dieu et dire, Seigneur, c'est toi qui es mon tout. C'est toi qui combles mon âme et ma vie. L'appréciation des pères, la reconnaissance, l'accomplissement personnel, l'accomplissement au travail, les biens matériels, la sexualité. Voyez-vous, il y a plein d'affaires là-dedans qui sont super saines, qui peuvent devenir des idoles dans ma vie. Et à ce moment-là, mon cœur est partagé. Mon cœur est partagé. Et vous savez, une des manières de reconnaître des idoles, c'est que vous vous tournez vers elles quand vous filez down un peu. Réflexe, vous allez là. Quand un chrétien file, tu sais, pas trop bien, qu'est-ce qu'il devrait faire normalement? Tu te tournes vers Dieu? Dieu! Tu files pas. Dieu! Dieu t'attend! Dieu t'attend avec sa parole pour te parler! Tu te tournes vers Dieu? Hello! Non, tu te tournes vers ton idole. Les idoles ont cette propriété de s'installer tranquillement dans notre vie puis devenir nos zones de réconfort. Et ça devient des idoles. Comment reconnaître des idoles dans votre vie? J'ai fait une liste vite. Comment savoir et voir si j'ai des idoles qui sont là dans ma vie? Quand quelque chose m'apporte plus de joie et de bonheur que le fait de savoir que Dieu m'aime et que je suis en paix avec mon Dieu. Quand quelque chose m'apporte plus de bonheur, je ne parle pas d'une joie, d'accord? Je veux dire, le jour de tes noces, correct, tu peux penser plus à ta femme qu'à Dieu. C'est cool, tu sais. Tu reçois un bébé. Oh non! Non, 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 c'est pas ça que je parle. Quand quelque chose devient une source de bonheur plus grande et plus importante que de savoir que Dieu m'aime, que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi et que Dieu me prépare une place au ciel, savoir que je suis aimé de lui, que je suis attendu par lui, quand quelque chose devient plus grand que ça, c'est une idole qui est en train de s'installer dans ma vie. Quand je ne veux pas mettre certaines choses au service de Dieu selon la pensée de Dieu. C'est ton argent, j'ai de l'argent. On est des intendants sur la terre. Christ nous a rachetés en entier. Mon argent appartient complètement à Dieu. Je dois simplement apprendre comment Dieu veut que j'administre cet argent-là pour sa gloire. Payer les billes, prendre soin de ma famille, donner pour l'œuvre. Tout ça, j'apprends ces choses-là et je le fais. Mais quand je dis non, 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 ça, c'est moi qui vais l'administrer. Ça, c'est ma partie. C'est une idole. C'est une idole. Que ce soit n'importe quoi, ma santé, mon temps, mes relations, mes contacts, mon argent, mes enfants, ma famille. Quand toutes ces choses et ces personnes-là, lorsque une de ces choses ou de ces personnes-là, je ne veux pas la mettre au service de Dieu et prendre soin de ça selon la pensée de Dieu. Parce que c'est une des manières qu'on reconnaît les idoles. Quand on dit, oui, mais je vais le faire à ma manière. C'est probablement une idole dans ton cœur qui est venue détrôner Dieu. Quand je sais dans mon cœur que si Dieu me les enlève, ma vie n'a plus de sens. Et encore une fois, je ne parle pas de vivre des crises. Si Dieu me faisait passer par les épreuves que Dieu a fait traverser Job, je vous le dis, pour un temps, ma vie n'aurait plus de sens. Je vous le dis. D'accord? On ne parle pas d'être des mystiques super spirituels qui vivent sur une autre planète. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais il y a des choses, à un certain moment donné dans ta vie, où tu dis, Seigneur, ça, tu ne touches pas à ça. Ça, tu ne touches pas à ça. Parce que si tu me l'enlèves, je n'ai plus le goût de vivre. Probablement une idole qui est en train de s'installer bien confortablement dans le salon de ton cœur. Probablement. Est-ce que vous êtes prêt à laisser les choses aller? Est-ce que vous avez la main ouverte? Dieu a donné, Dieu a repris, que l'Éternel soit béni. Et c'est un des tests. Tout ce qui est dans ta vie, est-ce que c'est déposé dans une main ouverte ou dans une main fermée? Ouvre la main pour te débarrasser de tes idoles. Et Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Ce n'est pas un Dieu machiavélique qui s'amuse à tout t'enlever parce que tu rouvres la main. Mais tant que tu n'ouvriras pas la main, il n'en mettra pas. Reste collé avec tes idoles, tu ne recevras rien. Tu es en train de suivre un autre Dieu. Quand ces choses ou ces personnes dictent ma vie plutôt que la parole de Dieu, un peu comme la première, d'accord? Quand ces choses dictent ma vie plutôt que la parole de Dieu, ça peut être des personnes. Oui, mais je l'aime tellement, tu sais, que Dieu est d'accord que je fasse ça. Ben non, c'est écrit non. Oui, mais je l'aime tellement que Dieu est d'accord, tu sais, que je fasse ça. Non, c'est écrit non. C'est une idole dans ta vie. Qui allez-vous servir en 2012? Une petite question comme ça pour commencer l'année. Et moi, j'aimerais ça vous inviter ce matin. J'aimerais ça vous inviter ce matin à examiner s'il y a des idoles qui se sont installées dans votre cœur en 2011. Personnellement, par expérience, je le vois, je vais vivre ce combat-là jusqu'à ce que Jésus vienne me chercher. Les idoles entrent et sortent de notre vie. Elles sortent lorsqu'on les sort, puis elles cherchent à rentrer par toutes sortes de portes, toutes sortes de fenêtres. On vit une crise, une difficulté au travail dans notre relation de couple, commence à être malheureux, on ne se tourne pas vers l'Éternel, trouve une porte de secours, trouve notre repos là. Pouf, il y a une idole qui vient de s'installer. En 2011, dans ta vie et dans ton cœur, est-ce qu'il y a des idoles qui se sont installées? Ou est-ce qu'il y en a qui étaient déjà là et que tu n'as pas chassé en 2011, qui vont dicter comment tu t'embarques en 2012? Quel Dieu vas-tu servir en 2012? Si tu veux servir l'Éternel, est-ce qu'il y a des idoles, des petites portes de sortie qui sont là cachées dans le fond du tiroir? Fais-les disparaître de ta vie. Dans certains cas, il faut que tu passes à l'action, il faut que tu poses des gestes concrets. Très concret. C'est le confort, ton idole. Commence à servir. Va voir ton voisin, viens servir dans l'église, peu importe. Mais, je veux dire, tu sais, fais-le mourir, le confort. Commence à servir. Si c'est ça, alors peut-être qu'il y a des actions concrètes qui doivent être prises. Tu luttes avec la pornographie. Il y a des ressources pour ça qui sont là. Va voir un frère, va demander des conseils, tu vas être accompagné. Ah, ça se peut que ça te coûte moins cher ton bill de télécommunication à la fin du mois, tu sais. Mais il y a des choix à faire, il y a des actions à prendre pour faire disparaître ces idoles de nos vies. Je termine avec un dernier élément dans le texte de Josué. Revenez avec moi dans Josué 24, s'il vous plaît. Et je pense que c'est un élément extrêmement important. On est dans Josué, on est dans l'Ancien Testament. Christ n'est pas venu encore et on ne peut pas regarder les passages de l'Ancien Testament comme si Jésus n'était pas venu. Toutes les Écritures nous parlent de Christ et on doit voir Christ apparaître dans le texte pour voir ce qu'il nous apporte de plus dans notre marche chrétienne. Josué fait quelque chose au verset 19. Josué dit au peuple, parce que là le peuple dit, je le jure, on va marcher avec l'Éternel, on va faire le ménage, il n'y aura pas d'autres divinités dans notre cœur. Josué fait quelque chose et dit, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il dit, vous ne serez pas capable. Je vous connais. Je vous connais, vous ne serez pas capable. Vous n'y arriverez pas. Et si vous avez lu la suite de l'histoire, Josué, c'était peut-être un prophète, en fin de compte. Parce que le livre des juges, on commence tout de suite après le livre des juges. Je disais, c'est plus ça que ça, c'est impossible. Après ça, on va arriver avec les rois. On est bon pour quelques années, mais ça recommence. Alors, l'histoire va confirmer ça. L'histoire d'Israël va confirmer qu'Israël n'a pas la force de suivre un Dieu saint. Et qu'à différents moments dans sa marche, Israël va se tourner vers des idoles, vers d'autres dieux, régulièrement. Commence à douter de Dieu et puis prêt à se confier en Dieu, se tourne vers d'autres idoles. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe dans le récit de l'Ancien Testament, dans le développement de l'Ancien Testament. Assez rapidement et sur des centaines d'années, des prophètes vont annoncer qu'un jour, un Messie va venir, un libérateur va venir. Quelqu'un qui va venir gagner ces batailles pour nous. Je vais vous lire juste deux passages très brièvement. Je pense qu'on les a d'affichés dans Ésaïe 49. Ésaïe 49 au verset 9. On est dans un texte prophétique, d'accord? Dans des textes prophétiques messianiques qui nous parlent du Messie à plusieurs endroits dans ces passages-là. Je veux juste vous lire quelques versets. Alors, verset 9, voici ce qui est dit. « Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et les conduira vers les sources d'eau. » Plusieurs prophètes ont annoncé qu'un jour viendrait un Messie, un Sauveur, qui libérerait les captifs. Voyez-vous, Israël, dans son histoire, avait été libéré d'un esclavage, l'esclavage physique en Égypte. L'histoire du peuple d'Israël est là pour nous révéler, nous aider à saisir, à comprendre que l'être humain vit un esclavage beaucoup plus grand qu'un esclavage physique. C'est l'esclavage du péché. Et ça, c'est l'histoire d'Israël. Israël est là pour nous dire, libère un homme de son esclavage physique, il est encore esclave. C'est ça l'histoire d'Israël, esclave du péché. Et donc, les prophètes ont annoncé qu'un jour viendrait un sauveur, un libérateur, qui viendrait briser ses chaînes, libérer les captifs, les conduire hors de cet esclavage ultime qui est l'esclavage du péché. Ésaïe 53, un texte que je cite régulièrement ici, versets 5 et 6. En fait, je vais commencer à 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » D'accord, on est au 8e siècle avant la venue de Jésus-Christ, texte prophétique qui annonce la venue d'un Messie. On voit Jésus qui est en train d'apparaître dans ce texte-là. On voit la croix, le sacrifice de la croix. Verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Josué a dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force. Et quand vous allez vous détourner, Dieu va vous châtier. Dieu va vous frapper. » Ésaïe 53, verset 5, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et tournez enfin avec moi dans Matthieu au chapitre 1. On a vu ce passage-là dans le cadre de la préparation pour Noël. Vous savez que Josué et Jésus, c'est Yeshua. D'accord? C'est le même nom? Ça va? Lorsqu'on arrive dans le chapitre 1 de Matthieu, verset 20, Joseph est en train de songer à se séparer de sa fiancée parce que, oups, un enfant, puis il trouve ça louche. Alors, verset 20, « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Voyez-vous, Jésus-Christ est notre Josué. Jésus-Christ est notre Josué qui nous conduit vers la terre promise, qui nous libère de cet esclavage beaucoup plus profond que l'esclavage physique que les Israélites avaient subi en Égypte. Jésus-Christ est notre Josué qui nous libère de l'esclavage du péché. Cette semaine, si vous voulez méditer, allez lire Romains 6. Prenez le temps de lire et de relire et de relire Romains 6. Christ a vaincu nos ennemis. Il a vaincu notre ennemi qui est le diable. Il a vaincu toute domination qui nous tient sous cet esclavage du péché. Alors ce matin, ce que je voulais vous partager, trois choses toutes simples. Prenez une décision. Nous sommes sauvés par grâce, mes amis, mais on doit prendre une décision. On doit prendre une décision de consacrer entièrement notre cœur à l'Éternel en 2012. Et si vous prenez cette décision comme Esther et moi, nous l'avons pris pour notre famille, je ne sais pas combien il y a de foyers ici représentés, mais autant il y a de foyers ici, autant il y a de décisions qui doivent se prendre. Et si vous avez pris la même décision que nous, faites disparaître de votre vie les idoles qui sont venues s'installer en 2011. Tout ce qui prend la place de Dieu dans votre cœur, prenez la décision de le chasser. Confessez-le à Dieu, repentez-vous. Chassez ça de votre vie. Troisièmement, chaque jour en 2012, venez vous appuyer sur la grâce. La grâce que nous trouvons en Jésus-Christ. Parce que par vous-même, vous n'aurez pas la force. Vous n'aurez pas la force d'avoir un cœur entièrement consacré. Mais Jésus-Christ a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il a vaincu toutes ses autorités, toutes ses dominations. Et la victoire est donc disponible pour nous. Ces idoles n'ont pas à régner sur vos vies en 2012. Ça se peut qu'il y ait des pleurs, ça se peut que ce soit long, ça se peut que ce soit difficile, que vous ayez besoin d'aller vers un frère, vers une sœur pour prier ensemble, pour lutter ensemble dans la prière, pour confesser la présence de cette idole dans votre vie. Ça se peut que vous ayez des décisions difficiles à prendre pour chasser ces idoles de vos vies. Mes amis, le bonheur se trouve tout près de Dieu, dans la présence de Dieu. Le bonheur se trouve dans cette intimité qu'on a lorsque on peut regarder Dieu dans la prière et dire, « Seigneur, mon cœur t'est entièrement consacré. » Il n'y a pas d'idoles qui sont là. Ah, oh, ça tourne autour. La lutte est difficile. Le combat va être là jusqu'à la fin. Mais il n'y en a pas d'idoles dans mon cœur, Seigneur. Je suis reposé en paix dans ta présence. Et j'attends ta grâce, Seigneur. Et le combat va être difficile. Et vous allez tomber, mais chaque jour, commencez votre journée, je le dis souvent à l'Église, commencez votre journée avec l'Évangile. Commencez votre journée avec l'Évangile, terminez votre journée avec l'Évangile. Seigneur Jésus, aujourd'hui, il va y avoir des combats. Parce qu'il y a une idole qui s'était incrustée dans ma vie en 2011 et j'ai décidé de la chasser. Puis elle rôde, elle joue avec mes pensées. J'ai tellement le goût de retourner vers ça. Mais j'ai pris une décision, Seigneur. Je m'appuie sur ta grâce parce que tu as fait de moi ton enfant par le sacrifice de Jésus-Christ. Tu m'as aimé jusqu'à donner ton Fils sur la croix. Je m'appuie sur cette grâce pour vivre comme un homme et une femme libre de toute chaîne, libre de toute idolâtrie et dans une communion précieuse avec Dieu. C'est mon souhait pour vous en 2012. C'est ma prière pour vous. On va prier ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir parce que tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu qui est resté au ciel en parlant de grands concepts. Tu n'es pas un Dieu qui nous parlait de ta sainteté du haut du ciel et qui restait distant de nous, de nos luttes, de nos drames, de nos tristesses, de nos combats, Seigneur. Non, tu es venu marcher au milieu de nous, Seigneur. Tu sais que nous n'avons pas la force par nous-mêmes de nous libérer du péché. C'est pas par la force de nos pensées ou de nos convictions que nous allons avoir des victoires sur des péchés qui traînent dans nos vies des fois depuis des années, mais seulement par la puissance de l'Évangile, par la puissance de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, Seigneur. Et c'est vers cette croix que nous nous tournons ce matin pour commencer l'année 2012, Seigneur. Nous nous tournons vers cette croix pour puiser à ta grâce. Sachant, Seigneur, que caché derrière la croix de Christ, tu nous aimes. Tu nous aimes parce que tu nous regardes à travers ce pardon que tu nous as accordé en vertu du sacrifice de Jésus. Tu nous aimes et tu nous as choisis pour faire de nous tes enfants précieux, Seigneur. Tu nous aimes et tu as placé en nous ton Esprit Saint. Ton Esprit Saint qui nous parle, qui nous trouble par moments lorsque des idoles veulent s'installer. Ton Esprit Saint qui nous retire la joie lorsque nous nous éloignons de toi, Seigneur, parce que la joie se trouve auprès de toi. À marcher avec un cœur entièrement consacré à toi, Seigneur. Père, j'aimerais te prier pour ceux qui entendent ce message ce matin et qui sont abattus parce qu'ils disent, Yannick, ça fait des années que je lutte avec des idoles. Si tu savais comme j'arrive pas à m'en débarrasser, Yannick. Seigneur, je te prie de venir faire une œuvre puissante par ton esprit en eux. Conduis-les au pied de la croix, Seigneur. Aide-les à saisir par la foi cette victoire que toi tu as acquise pour nous. Aide-les, Seigneur, à retrouver foi en toi, mon Dieu. Aide-les à avoir le courage de se tourner vers un frère, une sœur pour demander un compagnon d'armes, Seigneur, qui marche à nos côtés chaque année, cette année, Seigneur, chaque jour, chaque semaine dans la prière, par un coup de téléphone. Je prie, Père, pour ceux ici ce matin qui écoutent tout ça, trouvent ça bien joli, mais qui pourtant ne sont pas disciples de Christ et sont dominés par toutes sortes de passions qui dictent leur vie, Seigneur. Ce sont des beaux messages distants qui ne sonnent pas vrais dans leur cœur, Seigneur. Viens, Seigneur, ouvrir les yeux de leur cœur. Seigneur, l'aveugle ne peut voir de lui-même. Je crois en toi, mon Dieu, c'est toi qui attires et c'est toi qui donnes à ton Fils. Viens, Seigneur, les donner à ton Fils et qu'à la fin de cette année, ces gens viennent me voir en me disant, Yannick, je suis un adorateur de l'Éternel, du Dieu très haut, un disciple de Jésus-Christ. Et les idoles qui étaient dans ma vie, Christ les a chassées de ma vie. Je t'en prie, Seigneur Jésus. Et que la joie, Seigneur, règne dans nos foyers en 2012. Parce que les idoles en ont été chassées et parce que tu as toute la place qui te revient. Sois béni, Seigneur Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons tendrement. Merci, Seigneur, pour cette lumière que tu amènes dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen.